18h sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est l'heure de Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter.
Depuis la catharsis aristotélicienne, la philosophie a beaucoup questionné le théâtre et son lien qu'elle pouvait entretenir avec cette forme particulière d'art. Il n'est pas nouveau de s'intéresser à la relation étroite qu'entretiennent la théorie, la thérapie et le théâtre, termes étymologiquement proches, qui désignent l'objet contemplé ou le fait de regarder. Mais le XXe siècle et ses interrogations sur la fin de l'homme ont conduit les philosophes à se réapproprier la scène théâtrale. Le théâtre contemporain, entre absurdité et transcendance de l'humain, augmenterait-il les chances pour la philosophie de saisir l'homme dans l'ère qui suivra l'effondrement de l'anthropocentrisme? Si l'homme n'est plus au centre de l'univers, il est pourtant bien au centre de la scène. Entre ce qui est montré et dit et ce qui est caché au spectateur, il persiste une part d'inconnu, un inconnu virtuel qui ouvre le champ des possibles et ainsi même la réflexion philosophique. Comment le théâtre contemporain et la philosophie peuvent-ils discuter alors que l'un se vide de son sens tandis que l'autre a plus que jamais besoin d'en trouver? Qu'est-ce que le théâtre peut apporter à la philosophie? Comment la philosophie peut-elle se saisir de la scène sans pour autant nier ce qui s'y déroule? Le théâtre est-il notre seul outil pour anticiper la fin de l'homme? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre ce soir avec notre invitée, Aline Ouyam, docteur en philosophie et chargée de recherche au FNRS à l'Université libre de Bruxelles. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de Scènes de défiguration, quatre propositions entre théâtre et philosophie, publiées aux presses du réel. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci de m'avoir invité.
Théâtre et philosophie au programme de Déshabillez-moi ce soir. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h.
Et vous,
déshabillez-vous.
Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous annoncez dans l'introduction de votre ouvrage, donc je rappelle Scène de la défiguration, vous annoncez tout de suite donc un retour des recherches sur le théâtre en philosophie, en expliquant bien effectivement que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'il y a un regain d'intérêt pour cette question. Alors pourquoi et d'où vient ce regain d'intérêt?
Alors je vais donner ma version des faits qui n'est pas
c'est pour ça que vous êtes là.
Version, voilà. Moi, il me semble... que, bon, au-delà peut-être du fait que c'est vrai que le théâtre contemporain a quand même beaucoup bougé depuis, on va dire, dans les 50 dernières années. En gros, on s'est éloigné d'un théâtre plus dramatique où l'essentiel, c'était de représenter une histoire, finalement en faisant un peu oublier qu'on est au théâtre, en faisant croire à un univers. Et on est entré dans un théâtre qui expérimente beaucoup plus sur... Mais c'est quoi de faire du théâtre aujourd'hui, de montrer la scène, d'être réunis dans un espace? Donc il y a peut-être déjà des questions, un renouvellement des questions que la philosophie peut adresser à ce matériau-là. Et une autre hypothèse que je ne suis pas la seule à donner, mais je ne dirais pas que tout le monde la donne, c'est aussi l'état de la recherche académique en philosophie aujourd'hui. C'est pas un hasard finalement si ça vient d'abord, ça a commencé à être très visible cet intérêt pour mixer théâtre et philosophie ou performance et philosophie. Ça a commencé dans les milieux anglo-saxons. Et en fait, dans les milieux anglo-saxons, dans les universités anglo-saxonnes, beaucoup de départements de philosophie sont des départements de philosophie analytique, donc qui sont plus du tout dans l'histoire de la philosophie à l'européenne, qui sont dans des questions beaucoup plus formelles parfois. Et là-dessus, il n'y a plus trop de place, finalement, pour les philosophes comme on les connaît en Europe, pour le dire vite, et qui se posent des questions, justement, sur le théâtre et les thématiques du théâtre. Et donc, on va plutôt retrouver ces philosophes-là dans des départements d'études théâtrales, ou dans des départements d'études littéraires. Et peut-être que le fait de vouloir porter des disciplines qui affirment un lien fort entre le théâtre, la philosophie, la performance, le théâtre, les arts, est aussi une forme de réaction à cette situation-là, une manière de se recréer des espaces pour faire la philosophie qu'on a envie de faire, finalement.
Donc finalement, c'est une manière de réinventer un petit peu la philosophie, de la sortir des grimoires de l'université.
Tout en restant à l'université, c'est ça qui est paradoxal. Mais oui, en tout cas, d'échapper peut-être à la... à la définition la plus classique de la philosophie. Dans un département de philosophie, on fait ceci, on ne fait pas cela, il y a telle discipline dont on a besoin. C'est en tout cas, à mon avis, une réaction aussi à ça, de trouver de nouvelles disciplines, de nouveaux matériaux pour la philosophie et de ne pas rester dans le commentaire de la tradition philosophique seulement.
Donc l'idée, c'est que peut-être le philosophe devient lui-même aussi acteur ou auteur, ou en tout cas, ou performeur. Est-ce qu'il peut descendre, ce philosophe, descendre pour aller sur la scène, mais en même temps, est-ce qu'il peut descendre de son royaume de la philosophie pour aller justement pratiquer le théâtre, pratiquer les arts en général?
Y en a de plus en plus qui le font. Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a d'abord la position de philosophe et puis qui descend sur la scène. C'est souvent plutôt des croisements, des mélanges, des gens qui sont performeurs et qui se tournent vers la philosophie pour nourrir leur performance parfois. Donc oui, il y a ça, et il y a aussi le fait, auquel je tiens beaucoup, que même si on n'est pas dans une forme on n'est généralement pas en philosophie dans des conférences très performances, très spectaculaires, évidemment que parler devant un public, il y a toujours quelque chose de théâtral finalement. Enfin, ça a toujours fait partie pour moi de la pensée. Et là, je crois qu'on peut remonter assez loin. Enfin, que ce soit les dialogues de Platon ou la performativité de la pensée chez Hegel. Enfin, je crois qu'il y a toujours eu cette volonté finalement de mettre en avant aussi le fait que la pensée n'est pas un universel abstrait qui se balade comme ça. Et que non, il y a toujours des corps et des voix et des manières de raconter une intrigue philosophique qui sont partie prenante de ce que c'est faire de la philosophie.
Alors c'est vrai qu'il y a plein de manières de dire la philosophie. Alors bon, souvent on a quand même en tête, pour ceux qui sont passés par des études de philosophie, du vieux prof de philosophie assis à sa chaise qui lit quelque chose qu'il a préparé à l'avance et qui est souvent un peu ennuyeux, même si passionnant en fait quand on le relit, on se dit ah, là, c'était vraiment bien, mais je me suis un peu endormie au moment où je le lisais. Comment justement, l'idée pour vous c'est d'essayer de dépoussiérer un peu tout ça, d'aller chercher d'autres manières de dire, et donc du coup j'imagine qu'il y a une finalité à tout ça. C'est laquelle, vers quoi on tendrait en essayant de croiser un peu les différentes disciplines?
Mais sans doute, enfin j'espère, vers une forme de vitalité, oui. Effectivement, moi ce qui m'intéressait avec le fait de travailler la philosophie et le théâtre en croisement, c'est justement de ne pas être seulement dans le commentaire de texte, dans... suivre la tradition, ajouter peut-être une virgule à ce qui a déjà été fait, mais de mettre la pensée en prise avec d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, parce qu'il n'y a pas de raison que le théâtre ne soit pas une manière de penser aussi. Donc oui, c'est plutôt une pratique de revitalisation qui passe notamment par le théâtre, mais aussi par des croisements de la philosophie avec énormément d'autres pratiques finalement. Mais c'est quelque chose qui a toujours été présent dans ma formation aussi. Moi, j'ai fait mes études à l'Université libre de Bruxelles, donc on avait notamment Isabelle Stengers dans nos professeurs de philosophie, et c'est quelqu'un qui insistait toujours beaucoup sur les pratiques et qu'est-ce que ça requiert d'être dans telle pratique, à quoi on doit être attentif. Et donc oui, ça m'a toujours beaucoup intéressée de voir comment la philosophie telle qu'on la pratique aujourd'hui peut être mise à l'épreuve par d'autres pratiques, et qu'est-ce que ça implique comme décentrement, comme travail sur ce qu'on a l'habitude de penser pour acquis dans nos disciplines.
Et alors avec les étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, ou est-ce qu'au contraire ils ont peut-être tendance à attendre une philosophie assez classique?
Ah mais ça dépend, c'est difficile évidemment, enfin, les étudiants c'est pas une masse homogène, donc je crois qu'il y en a, beaucoup pour lesquels ça fonctionne assez bien, j'ai l'impression. Et surtout, et ça c'est peut-être pas inintéressant, chez les étudiants qui ne sont pas philosophes, mais qui sont confrontés à des cours qui parle de philosophie, justement avoir ces approches-là, une approche beaucoup plus hétérogène finalement, marche généralement assez bien, oui. Et je crois que c'est aussi important. En fait, la question, c'est pas seulement en tant que philosophe qu'à mon avis, il faut se poser la question de se confronter à d'autres pratiques, etc. Mais c'est vraiment aussi pour que la philosophie ait quelque chose à dire aux gens qui ne sont pas des professionnels de la philosophie. Et là, c'est d'autant plus important de savoir aller chercher d'autres pratiques, d'autres matériaux, d'autres récits.
J'ai l'impression que c'est quand même assez récent, cette volonté de la philosophie de parler à des gens qui ne sont pas des philosophes. Je ne sais pas si vous partagez mon opinion là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même assez nouveau de vouloir ouvrir un peu la philosophie et de se dire mais tout le monde peut finalement avoir un intérêt pour la philosophie, et on peut très bien avoir des étudiants qui ne sont pas des philosophes et qui peuvent pourtant mener une réflexion philosophique. Donc pour vous, c'est quelque chose de nécessaire que la philosophie s'ouvre à un public plus large, qu'elle soit entendue par d'autres ?
Pour moi, oui. Enfin, c'est toujours une question qu'on se pose de toute façon quand on travaille à l'université, qu'on est payé par des fonds publics. C'est quand même d'avoir une petite prétention à servir à quelque chose, pas dans un sens utilitariste, mais oui, il me semble important de. Il y a une telle richesse finalement dans les contenus de la philosophie, dans les différentes spécialisations en philosophie, que ce serait quand même extrêmement dommage que ça reste. Que ça reste réservé à quelques spécialistes qui sont capables de lire des livres très denses et très compliqués. Je crois que c'est fondamental, évidemment, d'avoir ce travail de... Pas de vulgarisation, mais en tout cas d'essayer d'ouvrir la discussion, les perspectives. Et aussi, c'est important pour les philosophes de ne pas rester sur leur petit pré carré et de savoir se confronter à d'autres questions, à d'autres pratiques, oui.
Alors, quels sont pour vous, il y a beaucoup d'auteurs qui sont cités dans votre livre, quels sont selon vous les grands classiques, les immanquables, quand on veut s'intéresser à cette question des relations entre théâtre et philosophie, et qui on doit lire nécessairement ?
C'est très compliqué en fait, parce que moi par exemple, je crois que l'auteur le plus présent dans mon livre, c'est Gilles Deleuze, qui en fait n'est absolument pas un classique indispensable pour travailler sur théâtre et philosophie. C'était pas du tout un... Et pourtant, je trouvais ça tout aussi intéressant, justement, de travailler à partir des frictions aussi. Mais pour ce qui est des grands classiques, alors là, je vais vraiment sortir les grands classiques.
On y va, mais n'ayons pas peur.
Je trouve que Platon et Aristote restent assez fascinants. Et Platon notamment, parce qu'on a tendance à se dire que la peur du théâtre chez Platon aujourd'hui est complètement... Ça nous semble un peu absurde et complètement déconnecté. Mais si on remplace théâtre par jeu vidéo, on se rend compte que c'est exactement les mêmes critiques qu'on retrouve chez Platon. Et donc, il nous tend une espèce de miroir déformant sur notre rapport à la fiction et à la représentation, qui est assez intéressant. Donc voilà, moi, dans les contemporains, les auteurs qui m'ont attirée sur cette question-là, il y a Denis Guénoun, notamment, qui enseignait ici à la Sorbonne. Qui a travaillé très tôt, vraiment sur la question, tiens, qu'est-ce qui se passerait si on voyait le théâtre comme un mode de pensée, si on ne mettait pas une frontière nette et franche entre la pratique théâtrale et la philosophie comme deux matériaux complètement hétérogènes, si on prenait au sérieux les philosophes quand ils utilisent les mots scène et acteur et qu'on ne se disait pas directement métaphore. Et donc ça, pour moi, ça a été, ces livres ont été assez importants.
C'est lui qui a révélé quelque chose, cet intérêt pour vous dans votre pratique ensuite de la philosophie ?
Oui, quand je l'ai lu et que j'étais étudiante, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment un chemin à faire à partir de là, oui.
Très bien, on va continuer donc sur cette question juste après une pause musicale.
Come on, the liberates. Oh, oh, oh.
Sophie Grimmer de Volage, vous êtes toujours dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Je suis toujours en compagnie d'Aline William, auteure de Scène de la défiguration, quatre propositions entre théâtre et philosophie publiées aux presses du Réel. Alors on a discuté tout à l'heure dans une première partie d'émission sur ces liens entre le théâtre et la philosophie et comment la philosophie peut s'ouvrir et devrait s'ouvrir finalement au théâtre. On va écouter justement un extrait d'une pièce de Beckett qui... Fin de partie, hein, bien sûr, que vous citez à de nombreuses reprises dans votre ouvrage et qui questionne à des questionnements qui sont effectivement de l'ordre de la philosophie. Et puis en même temps, on voit bien qu'on a quelque chose qui dépasse aussi l'humain chez Beckett. On l'écoute et puis on réagit ensemble après.
Au théâtre Alpha 347, une fable tragique qui est un classique de la dramaturgie contemporaine. Fin de partie de Samuel Beckett qui est mise en scène et joué par son créateur Roger Blin dans un décor de Mathias. Cette fin de partie est celle de la vie. Beckett nous en offre une vision fantastique. Ses héros sont parvenus à un point extrême de misère physique. Ils vivent, ou plutôt ils survivent dans un monde qui est devenu étrangement désertique, privé de toute autre existence. Il y a là Ham, que joue Roger Blin, aveugle et paralysé, son valet Clove, André Julien, qui lui ne peut jamais s'asseoir, et les parents de Ham, Georges Adet et Germaine de France, qui, réduits à l'état de cul-de-jatte, demeurent dans des poubelles.
Clove.
Oui.
La nature nous a oubliés.
Il n'y a plus de nature.
Plus de nature, tu vas fort.
Dans les environs.
Mais nous respirons. Nous changeons, nous perdons nos cheveux, nos dents, notre fraîcheur, nos idéaux.
Alors, elle ne nous a pas oubliés.
Mais tu dis qu'il n'y en a plus.
Personne au monde n'a jamais pensé aussi tordu que nous.
On fait ce qu'on peut.
On a tort.
Tu te crois un morceau, hein?
Mille.
Ça ne va pas vite. Ce n'est pas l'heure de mon calmant?
Non. Je te quitte, j'ai affaire.
Dans ta cuisine?
Oui.
À faire quoi, je me le demande?
Je regarde le mur.
Le mur? Et qu'est-ce que tu y vois sur ton mur? Manet, Manet, des corps nus?
Je vois ma lumière qui meurt.
Ta lumière qui... Oh, qu'est-ce qu'il faut entendre? Eh bien, elle mourra tout aussi bien ici, ta lumière. Regarde-moi un peu, et tu m'en diras des nouvelles de ta lumière.
Tu as tort de me parler comme ça.
C'était donc un extrait de Fin de partie de Beckett, que vous connaissez bien, j'imagine. Alors, on se retrouve donc dans une situation particulière, hein, puisqu'on a ces personnages qui n'ont plus de nature autour. Mmh. On questionne donc forcément cette fin de l'homme aussi, cette fin de partie. Est-ce que justement, chez Beckett, il y a déjà donc cette réflexion philosophique? Est-ce que la philosophie s'est saisie déjà de cette question-là, de cette pièce de Beckett, de cette œuvre de Beckett? Et comment justement la philosophie peut nous éclairer sur la pièce de Beckett, et comment la pièce de Beckett peut nous éclairer sur justement cette notion, cette question de la fin de l'homme. Ellen William.
Alors il y a évidemment plusieurs manières de prendre la question, parce que les philosophes se sont beaucoup tournés vers Beckett. Dans des directions assez différentes. Il y a évidemment le Beckett de Badiou qui est très connu. Il y a aussi Adorno qui a écrit dans le même ordre d'idées sur ces questions de la fin de l'homme, et puis aussi, bon, comme c'est des philosophes avant tout, la fin du sens. Est-ce qu'il y a encore un sens? Et c'est pour ça que ça me semble intéressant de revisiter Beckett. Qui est souvent présenté comme effectivement la fin du sens, si pas le théâtre de l'absurde. Je vais pas dire point à la ligne, c'est tout, parce que ce serait un peu trop rapide, mais qui est souvent pris à partir de cette pente-là. Or, et on l'entend, je trouve très bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il n'y a plus un grand sens vainqueur de tout qui s'impose dans la pièce de Beckett, mais il n'y a pas rien du tout. Il y a une prolifération d'éléments, il y a beaucoup d'humour, de jeux de mots, de micro-situations. Finalement, Beckett fonctionne aussi bien qu'un auteur classique pour, en deux phrases, nous faire sentir une situation, un contexte, un ressenti, etc. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de se dire que que de se baser sur une espèce de perte du sens, fin de l'humain dans le sens dépressif du terme, on va dire c'est fini, on va tous mourir, il n'y a pas d'autre sens à chercher. Je trouve que chez Beckett, il y a un jeu évidemment avec le sens, avec ce que devient l'humain, souvent fermé dans des poubelles, dans le sol, etc. Mais en même temps, il y a plein de choses, il y a plein de trouvailles théâtrales, que ce soit au niveau de la langue, des situations, des jeux d'acteurs. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de montrer que c'est pas parce qu'on n'a plus le personnage des humains triomphants qui vivent leurs petites histoires sans être mis en question par le reste du monde, finalement. C'est pas parce qu'on n'a plus ça qu'on n'a plus de théâtre, qu'on n'a plus de philosophie et qu'on n'a plus un sens qui peut être créateur, vital. Enfin, on n'est pas forcément du côté d'une raréfaction, comme ça, un peu mortifère, où on irait au théâtre juste pour voir les choses se défaire petit à petit et être dans une posture assez cynique, finalement, par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment pas ça du tout qui est en jeu chez Beckett, que c'est plutôt une certaine forme de vitalité, en fait, théâtrale et philosophique.
C'est ça, c'est que chez Beckett, il y a quand même cette idée, enfin, il y a une perte de sens dans la perte aussi des repères théâtraux dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans du théâtre classique avec une unité de temps, de d'espace, avec les règles en fait qui sont celles du théâtre. On a un peu brouillé les pistes et les cartes des règles du théâtre. C'est à partir de quand qu'on commence à construire un nouveau théâtre et à se défaire en fait du théâtre classique?
Alors ça, c'est une vaste question.
À quel moment, en fait, est-ce que c'est uniquement dans le théâtre contemporain? Est-ce qu'à quel moment on arrive dans ce théâtre contemporain? Vous l'avez situé dans les années 50, autour des années 50. Est-ce qu'on a quelque chose d'assez clair, une limite un peu précise pour pouvoir savoir quand commence ce théâtre contemporain? À quel moment on détruit un peu les codes?
Alors, on a des limites précises. Enfin, c'est pas moi, là, pour le coup. C'est les études théâtrales, etc.
Bien sûr.
Mais ce qu'on appelle la crise du drame, c'est-à-dire que le drame classique, avec effectivement les unités d'action, de temps, de lieu, et le fait que ce soit finalement des actes assez héroïques, des grandes situations qui soient représentées. Cette crise du drame, on la date à la fin du 19e siècle, avec Tchekhov par exemple, où on n'est plus du tout chez Tchekhov dans un drame classique. C'est justement l'impossibilité d'agir, le monde intérieur des personnages qui prend le pas sur la représentation de l'action. Puis voilà, après tout le XXe siècle, finalement, essaye de répondre plus ou moins cette question de qu'est-ce qu'on fait avec cette crise du drame. Est-ce que c'est qu'une crise qui va être dépassée, on va revenir peu ou prou à la situation antérieure, est-ce qu'on va vers autre chose? Et c'est vrai que c'est sans doute, mais à la grosse louche, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on commence vraiment à avoir des formes de théâtre plus contemporains qui assument cette crise du drame qui se met en place. Et encore, c'est un peu compliqué comme chronologie. Enfin, vous avez quand même toutes les expérimentations russes qui se passent avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, c'est, on va dire que le XXe siècle est un espèce de grand chantier. Et puis toujours dans les études théâtrales, au début des années 2000, il y a Hans Tislemann, qui est un chercheur allemand, qui a publié le théâtre post-dramatique et qui, lui, proposait vraiment de parler d'une nouvelle forme de théâtre qui se définit par un refus de tout ce qui faisait le théâtre dramatique classique. Donc depuis l'âge classique, vraiment, littéralement. Et là, il situe ça avec le développement de la performance, du happening notamment, et donc on est plutôt autour des années 70, en gros. Donc voilà, il y a plein de...
Vous parlez-vous de dédramatisation?
Oui, j'en...
Dans les deux sens du terme, d'ailleurs, parce qu'il y a cette notion de dédramatisation, c'est-à-dire de s'affranchir des codes du théâtre dramatique, et en même temps de se dire que le théâtre peut aussi être un espace de jeu dans lequel on peut aussi faire de l'humour, faire des blagues, faire des jeux de mots, des calembours, comme le fait Beckett.
Exactement. Alors moi, j'ai pris le terme dédramatisation parce que je faisais de la philosophie. En fait, je ne sais pas s'il est obligatoire en théâtre en tant que tel. Mais en philosophie, ça me semblait pas mal d'avoir ce terme-là, parce qu'effectivement, il y a ce rapport à la dramatisation, et je trouve que le théâtre du drame, etc., synthétise beaucoup de questions importantes sur la manière dont on fait de la philosophie. Est-ce qu'on fait des grands récits? Est-ce qu'on reste basé sur les relations interhumaines? Comment est-ce qu'on pourrait intégrer dans la pensée de manière convaincante des non-humains, que ce soit des vivants non-humains ou des non-vivants non-humains et finalement, je trouve que ces questions qui se posent aujourd'hui en philosophie sont en quelque sorte les questions qui se sont posées au théâtre au XXe siècle avec la crise du drame et comment, qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, qu'est-ce qu'on peut inventer comme nouveau moyen pour montrer d'autres réalités, pour ne pas seulement rester dans un récit centré sur les relations entre humains. Et c'est pour ça que j'ai proposé le terme de... que j'ai proposé de penser avec le terme dédramatisation dans mon livre, parce que ça fait écho à ce qui se passe au théâtre, où ça pose des questions de récit, de représentation, de quels sont les êtres qu'on va prendre en compte, mais aussi parce que ça fait vraiment écho pour moi aux enjeux de la philosophie aujourd'hui, en tout cas de comment écrire de la philosophie aujourd'hui.
Alors comment écrire de la philosophie aujourd'hui? C'est une question.
Alors en tout cas, moi j'aurais tendance à dire, en tout cas au sein de du groupe de recherche dont je fais partie à Bruxelles, qui s'appelle le groupe d'études constructivistes, j'aurais tendance à dire qu'on a besoin en tout cas de multiplier des récits, qu'on ne doit pas du tout être dans la raréfaction, chercher le sens, l'explication, la réponse, le bon concept métaphysique, mais essayer finalement de faire proliférer les possibles, essayer de justement se pencher sur toutes les histoires, notamment les histoires de non-humains qui peuvent être fascinantes, essayer de faire proliférer ça, de s'intéresser à ça, de voir ce qu'on peut en faire, en quoi ça nous saisit. C'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup dans mon groupe de recherche, notamment autour des questions de l'anthropocène et du réchauffement climatique. Mais donc, voilà, comment ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser désespérer finalement par une situation qui est déjà donnée comme désespérante et finie, mais ça nous force à prendre en compte plein de paramètres auxquels la philosophie ne faisait pas attention avant finalement, et c'est peut-être une chance. Je crois que la question des possibles en philosophie a toujours été très importante, et que s'intéresser à d'autres pratiques, à d'autres modes de récit, comme c'est le cas notamment en théâtre contemporain, est une bonne manière de réinventer une écriture, une pratique assez vitale finalement de la philosophie.
Donc la philosophie a nécessairement besoin de fiction pour pouvoir continuer à réfléchir le monde?
Personnellement, je dirais oui. Je dis plutôt récit parce que bon, fiction, on peut le prendre dans un sens très la fiction comme opposée au réel, et je crois que la fiction fait complètement partie du réel et nous fait agir au même titre que des choses qui ne sont pas de la fiction. Mais oui, en tout cas, on a besoin de récits, on a besoin d'histoires. À mon avis, oui, c'est fondamental.
Et donc, ce qui implique pour la philosophie de dépasser, et c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, de dépasser cette dichotomie entre le réel et l'illusion, mm-hmm. entre la vérité et le mensonge, et donc de casser aussi un peu, du coup, la philosophie doit aussi casser ses codes, presque, parce qu'on peut presque appeler ça des codes, finalement. Ça fait tellement longtemps, effectivement, que la philosophie se questionne sur cette distinction entre le vrai et le faux, qu'il faut peut-être, à un moment donné, dépasser ça, transcender ça, et c'est que le théâtre lui permet donc de transcender ça ?
Oui, alors ça c'est une proposition de Michel Foucault, et c'est assez, enfin, je tiens à le relever parce que Michel Foucault a très peu écrit sur le théâtre, et alors il a un petit texte comme ça, où sur un paragraphe, il dit voilà, à mon avis, le problème de la philosophie, que la philosophie a longtemps eu avec le théâtre, c'est que la philosophie ne repose que sur la distinction entre le vrai et le faux. C'est l'objet de la philosophie, c'est de ne pas se laisser tromper, c'est de discerner ce qui est le vrai. Et au théâtre, si on devait toujours avoir en tête cette distinction entre le vrai et le faux, si on devait toujours se demander est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir, est-ce que c'est faux, le théâtre ne serait pas possible, ça ne marcherait pas. Et donc Foucault fait ce petit diagnostic comme ça, très rapide, mais qui permet finalement de renouveler complètement la manière dont on va s'intéresser à la fiction et au théâtre. Arrêter de se dire simplement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Enfin, essayer de trouver des manières de construire du sens, finalement, de penser, qui ne repose pas sur la volonté à tout prix de trouver le vrai et la peur absolue de se faire berner, ce qui était déjà une des grandes critiques de Deleuze à l'histoire de la philosophie, c'est de présenter l'erreur comme le pire qui puisse arriver, à un philosophe et à un homme par extension. Et Deleuze disait, c'est quand même stupide de croire que dire « bonjour tes têtes » alors que c'est pas tes têtes soit le pire qui puisse arriver à quelqu'un qui pense. Il dit non, il y a des dangers beaucoup plus graves qui pèsent sur la pensée. Et peut-être effectivement, travailler sur la question du théâtre, du récit, etc. permet aussi de mettre en évidence cet aspect-là, que finalement la pensée, qu'elle soit dans des formes de fiction ou de réalité, c'est pas le plus important.
Guillaume Tessier, avec 2048, Détour vers leur futur. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, dans Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Et je suis toujours avec Aline William, auteure de Scènes de la défiguration, quatre propositions entre théâtre et philosophie, publiées aux Presses du Réel. Je dis encore une fois, comme ça, ça fera plaisir à votre auditeur.
Exactement.
On était en train de discuter de cette question du théâtre contemporain et de la manière dont il oblige finalement le philosophe à sortir un peu de son espace de confort et de sa réflexion habituelle construite en fait sur une dichotomie entre la réalité et le mensonge, entre le vrai et le faux, entre le réel et l'illusion. Qu'on avait pris cet exemple de Beckett tout à l'heure, qui nous a permis en fait d'entrer dans cette discussion et de montrer que finalement le théâtre contemporain avait aussi autant à dire sur l'homme et sur la vie en général que la philosophie. Alors on va continuer donc cette discussion avec justement l'humain d'après. On a évoqué un petit peu cette question de l'anthropocène et donc de cette idée effectivement que face au réchauffement climatique, on va peut-être arriver à une extinction, en tout cas une fin de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. En quoi le théâtre nous permet de nous armer sur cette question-là et permet à la philosophie finalement de trouver une orientation à la réflexion sur cette question de l'après?
Alors je dirais que une des questions qui se posent avec l'anthropocène, ou en tout cas bon, pour la disparition de l'espèce humaine, on ne sait pas trop, mais en tout cas pour nos sociétés et ce à quoi on tient dans nos sociétés, ce qui nous fait tenir ensemble, là c'est un peu plus sûr que ça risque d'être sérieusement mis à mal. Et je crois qu'une des questions qui se pose, je suis pas la seule à le croire, hein, mais c'est la question de... C'est des questions finalement assez esthétiques. De comment on se représente en tant qu'espèce par rapport aux autres espèces, comment on se représente notre planète. Il y a plusieurs penseurs contemporains de l'Anthropocène, notamment Bruno Latour, qui ont fait remarquer que on s'est beaucoup basé, Peter Sloterdijk a dit ça aussi, on s'est beaucoup basé sur l'image du globe à la modernité pour penser notre planète. Et que finalement, c'est une image très trompeuse quand on a Gaïa, ou comme on veut l'appeler, qui survient. Parce que le globe donne l'impression que c'est facilement maîtrisable. C'est une forme pleine, ronde, qu'on peut vraiment maîtriser, pas d'un seul coup d'œil, mais de quelques coups d'œil. Et que finalement, la Terre qui se réveille et qui se réchauffe et qui emmène des catastrophes écologiques, c'est quelque chose de beaucoup plus monstrueux que ça. Donc il y a par exemple cette question-là, de comment on se représente la Terre. Il y a évidemment la question de comment on se représente l'humain par rapport aux autres espèces. On ne peut clairement pas continuer à se représenter l'humain comme une exception face à la nature qui lui serait extérieure, vu que la nature est en train de la détruire, elle est en train de le détruire en retour. Donc il y a toutes ces questions de comment sentir, et puis simplement de se représenter, ça veut dire quoi? Une période d'extinction de masse, ça veut dire quoi? Perdre des espèces multimillénaires. Et tout ça, pour moi, pose des questions qui sont des questions d'esthétique, finalement, de comment on se représente ça, comment on peut le sentir, comment on peut retrouver d'autres manières de faire monde, d'autres manières de se lier à nos environnements. Et je crois que, comme tous les arts, finalement, le théâtre a un rôle assez important là-dedans, effectivement, de travailler ces nouveaux types de regards, ces nouvelles manières de sentir, de représenter. Donc oui, je dirais qu'il a un rôle tout à fait capital là-dedans, que ce soit par ses stratégies de mise en scène. Ça existe aussi de plus en plus des performances qui ne sont pas du tout basées sur les performeurs humains, on va dire. Et d'autre part, par les récits qu'il invente et les possibilités qu'il nous fait entrevoir.
C'est donc la créativité du théâtre qui manque un peu à la philosophie?
Oui, on pourrait dire ça. Ou en tout cas, quand elle ne s'en inspire pas. Je ne dis pas que la philosophie, c'est pas le théâtre. Il ne faut pas complètement collusionner les deux, sûr, en quelque sorte. Mais en tout cas, essayer de trouver cette forme de créativité-là, en se demander comment faire sentir ça, comment montrer ça, comment inventer, comment donner l'envie de créer des possibles. C'est des questions qui doivent agiter la philosophie et dont elle peut notamment s'inspirer au théâtre, oui.
Alors, on parle beaucoup de théâtre, on évoque, et vous évoquez un tout petit peu le cinéma dans votre livre aussi. Est-ce que les arts contemporains, enfin l'art contemporain, le cinéma, sont tout aussi capables que le théâtre de penser l'homme de demain, ou justement, est-ce qu'ils sont moins capables de le faire? Est-ce qu'ils sont limités quelque part par rapport au théâtre? Est-ce que c'est parce que le théâtre utilise le corps d'un homme, d'un comédien sur une scène, qu'il est capable justement de montrer ce que ne sont pas capables de montrer les autres art?
Je crois pas qu'il y ait un art qui soit plus approprié que l'autre. En fait, je pense que chaque médium, ce qui est intéressant, c'est justement que chaque médium est différent et pose des défis différents avec des facilités et des difficultés différentes, et que le théâtre reste passionnant pour ça, parce que c'est peut-être l'art qui pose le plus directement les questions de représentation, etc. Mais je pense pas qu'il soit le seul à même de le faire, et c'est un peu ce dont je parle dans le livre, cette fois-là, en utilisant des passages de Gilles Deleuze dans ses livres sur le cinéma, justement, où il dit que les vrais amateurs de théâtre ont beaucoup déploré, quand le cinéma s'est développé comme un art industriel de masse, le fait qu'on perdait le théâtre qui seul donnait des corps vivants à voir. Et il disait, mais... ça, le problème, c'est qu'on fait comme si la question du cinéma, le but du cinéma, était le même que celui du théâtre, mais qu'il arrivait plus tard et qu'il le faisait mieux. Et il dit, la question du cinéma, c'est pas du tout la même que le théâtre. C'est pas de montrer des corps vivants, ressuscités. Enfin, ça, c'est la terminologie de Deleuze. Mais c'est de... c'est comment faire exister une forme de corps, une forme de vie avec des grains de lumière. Il dit, c'est une question qui n'a rien à voir. Le cinéma ne vient pas voler ça au théâtre. Le cinéma crée d'autres questions, finalement. Et je pense que c'est assez important de se rappeler ça, effectivement, de ne pas rentrer dans une espèce de querelle des arts, mais de se dire que chaque art vient avec ses questions, ses nécessités, ses stratégies, ses médiums, et que tout est bon à prendre.
D'ailleurs, on voit apparaître quand même, c'est apparu depuis très longtemps, une transdisciplinarité où effectivement on utilise dans le théâtre de la vidéo, dans des performances artistiques, il y a quelque chose effectivement du théâtre. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'utilisez en fait, pour vous, la performance artistique est quelque chose déjà de théâtral. Donc on voit quand même se mélanger de toute manière les différents arts, et avec justement dans la question de l'art contemporain, cette nécessité de la conceptualisation qui peut se rapprocher de près ou de loin de la philosophie et de la manière dont on la fabrique.
Oui, tout à fait.
Ouais. Pardon, oui, donc voilà, je parle à votre place, c'est très bien. Alors, il y a une autre question, moi, qui m'intéressait, c'est celle de la défiguration. C'est dans le titre de votre ouvrage. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de défiguration qui, à mon avis, n'est pas quelque chose de qui va de soi nécessairement. Et donc, pour vous, donc, vous expliquez que effectivement, on a accès avec le théâtre contemporain à justement une défiguration. C'est parce qu'il permet la défiguration, parce qu'il pense la défiguration, qu'il a quelque chose à apporter aujourd'hui à notre réflexion sur l'homme et plus généralement sur effectivement l'homme et les espèces qui l'entourent.
Oui, alors le terme de défiguration, en fait, je l'ai trouvé chez Evelyn Grossman, qui est une spécialiste notamment d'Antonin Artaud, et qui avait publié au début des années 2000 un livre aux éditions de Minuit qui s'appelait La défiguration, Artaud, Beckett, Michaud. Et ce qu'elle proposait d'appeler défiguration, c'était finalement, on était dans l'ordre, dans la théorie littéraire, là, avec Artaud, Beckett et Michaud, et c'était cette tendance, ce procédé, cette tendance au dépassement des figures humaines normatives. L'homme blanc, bon père de famille, par exemple, etc. Et elle s'intéressait à comment des écrivains comme Artaud, Beckett et Michaud allaient travailler des techniques littéraires, des techniques de récit qui permettent de complètement éroder finalement ces figures normatives qu'on a de c'est quoi être un homme avec un grand H, en allant fouiller du côté de l'animalité, de la folie, de la mystique. Et c'était ça qu'elle proposait comme un mouvement assez nécessaire finalement pour redonner vie, redonner un dynamisme aux figures qui autrement peuvent être un peu trop figées. Et elle parlait notamment rapidement, mais c'était quelque chose qui m'avait vraiment captivée à l'époque, du concept de normopathie, qui est un concept notamment qui était utilisé par Jean Houry à la clinique de la Borde. Et il appelait et désignait normopathie la maladie des gens qui sont malades des normes, c'est-à-dire qui s'évertuent tellement à ressembler à ce qu'on attend de l'homme urbain contemporain, qui deviennent une espèce de coquille vide avec des affects qui ne peuvent plus sortir, qui sont complètement enfermés sous cette carapace normative. Et donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, effectivement, cette question de l'identité, pas au sens forcément personnel, mais comment sortir de cette...
quelque chose d'un peu grégaire.
C'est ça, grégaire et vraiment figé. Cette absence de mouvement. On a trouvé des traits définitoires de l'humain et on va s'y tenir et ça va être la norme à respecter. Evelyn Grossman rapprochait notamment ça des manuels de développement personnel, des stratégies marketing et management, de comment parler à ses employés pour qu'ils soient bien dans leur petite case finalement. Et donc oui, c'est parti de là, de cette question de déjà ne pas prendre pour acquis, pour évident, les définitions de ce que c'est qu'être un homme et quels sont les procédés qui permettent de travailler ça et de dépasser ça. Et c'est pour ça que j'en suis venue à partir du livre d'Evelyn Grossman, finalement, qui partait de littérature, à cette idée de me tourner aussi vers le théâtre en me disant mais... chez Artaud, Beckett et Michaud, bon Michaud, ok, c'est peut-être un peu moins le cas, mais finalement Artaud et Beckett ont tous les deux énormément, des noms extrêmement importants de l'histoire du théâtre. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller voir de ce côté-là si on ne trouve pas aussi un travail sur ces processus de dépassement de la figure humaine figée. Et effectivement, on trouve que ça, avec la crise du drame, ces questions de comment faire récit, comment montrer le non-humain, etc. Et donc oui, c'est ça qui m'a mené à nouer la question de la défiguration avec la question du théâtre.
Et alors, quel est le futur du... Alors, on a parlé du futur d'homme, mais le futur du théâtre. Est-ce que du coup, le théâtre d'aujourd'hui et le théâtre qui est en train de se construire questionne toujours ce futur de l'homme? Est-ce que c'est des questionnements qui sont encore d'actualité? Est-ce qu'on est revenu ou est-ce qu'on est resté dans quelque chose du dramatique? Est-ce qu'on a... Finalement, on y est revenu après s'être échappé un peu de ces règles-là? Comment il est le théâtre aujourd'hui et comment il sera celui de demain?
Alors je vais pas trop mouiller pour celui de demain, mais après c'est toujours quelque chose d'assez intéressant et c'est toujours très intéressant de s'en rappeler quand on travaille là-dessus à un niveau universitaire aussi et qu'on a tendance à être un peu borné parfois. Évidemment, il y a le théâtre dont je parle finalement dans mon livre, c'est... Pour le dire vite, du théâtre public subventionné finalement, ouais. Où il y a encore une marge de création, de faire des choses qui ne sont pas forcément les plus parlantes directement pour un grand public qui n'est pas un peu formé à ça. C'est évident que si on regarde du côté des théâtres privés, on est sur des formes très classiques.
Oui, du boulevard.
Du boulevard. Et même quand on regarde... Et je n'ai pas de nom en tête, donc ce n'est vraiment pas... Mais si on voit certaines pièces de théâtre contemporain qu'on peut voir dans le privé, c'est peut-être pas un retour au drame tel quel, mais c'est du téléfilm. Enfin, la narration est une narration de téléfilm avec des petits embarras de la vie quotidienne. Donc oui, il y aura toujours ce théâtre-là, et puis pourquoi pas, enfin... C'est pas très grave finalement. Et il peut aussi y avoir des beaux moments dans ce théâtre-là. Et ça peut toujours déborder de la forme rigide. Et je crois que oui, dans ce qui est le théâtre, soit subventionné, soit underground, on continue de plus en plus, à mon avis, à aller dans ce sens-là, d'une interrogation des limites entre l'humain et le non-humain, d'une interrogation de notre rapport au sens, qui peuvent parfois être des interrogations qui peuvent parfois être radicales, même quand on est spécialiste de la chose. Hein, si l'interrogation, c'est qu'est-ce que ça fait de rester assis 1h30 dans cette pièce sans bouger, ben c'est ça aussi. Mais je ne crois pas que ça va disparaître.
C'est de mettre aussi le corps du spectateur à l'épreuve, finalement.
Exactement, oui.
Et ne pas celui du comédien uniquement. Donc on va chercher effectivement dans le théâtre contemporain d'autres formes et donc de pousser plus loin la réflexion. Est-ce que vous avez là des noms cette fois-ci sur des choses qu'on peut voir nous en tant que spectateur pour justement entrer dans ces interrogations-là? Parce que bon, Beckett, effectivement, il est toujours joué, on peut toujours continuer à le voir. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs de théâtre contemporain et de metteurs en scène contemporains d'aujourd'hui qui continuent à traiter ces sujets?
Alors, ils le font plus de la même manière, heureusement, au même
bien
temps.
Sûr.
Mais moi, je trouve par exemple le travail de Philip Ken extrêmement intéressant, donc qui travaille vraiment sur, pour le coup, des espèces de tableaux basés sur le végétal. C'est même plus l'humain et l'animal, là. C'est vraiment l'humain qui disparaît dans le végétal. Donc, ce sont des expériences que je trouve assez intéressantes, oui. J'aime beaucoup aussi le travail de Heiner Goebbels, qui a travaillé justement avec Heiner Müller, dont je parle dans le livre, et qui, l'exemple le plus clair par rapport au sujet de mon livre, c'était une pièce qui s'appelait Stiftersdinge, donc basée sur l'écrivain autrichien, je pense, Stifter, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Alors c'était une pièce où il n'y avait pas de performeur humain, il n'y avait pas d'humain sur le plateau. C'était une espèce de grande installation avec des pianos, des accordés, des effets visuels, etc. Quand on était bien assis au milieu des gradins, on avait vraiment des impressions visuelles de désert. Ils travaillaient beaucoup sur l'eau. Et donc, c'était à la fois... Il y avait aussi des textes. Et ça questionnait effectivement la question de la fin de l'humain d'une manière très subtile. Donc on avait à la fois des textes de Stifter, donc qui est assez proche du romantisme et qui décrit une forêt déserte et comme figée dans la glace. Et c'est entremêlé avec des interviews de Claude Lévi-Strauss, des musiques polyphoniques, etc. Et tout ça créait une impression... Je suppose pour certains apocalyptique, pour d'autres en tout cas c'était un mélange de une évocation de la nature avec le machinique, cette grande installation qui fonctionne sans humain, les effets visuels, etc. Tout ça donnait quelque chose d'extrêmement riche. Et ce qui est intéressant peut-être dans mon livre, je pars des textes, finalement du théâtre de texte, ce qui est peut-être plus facile aussi quand on est philosophe, mais ce qu'il y a d'intéressant dans les formes que je viens de citer chez Goebbels ou chez Ken, c'est justement que ce n'est pas le texte qui domine ce qu'on va pouvoir faire. Et donc ça met vraiment à l'épreuve notre sensibilité, la manière dont on sent et dont on fait sens avec ça.
Et donc là, on a cassé complètement les codes du théâtre, puisqu'on est allé chercher dans d'autres, dans les autres arts, et donc on a rompu les frontières, effectivement, puisqu'on est presque du côté de la performance et de l'installation artistique, plus que du côté du théâtre avec un acteur sur la scène. Ben, merci beaucoup, Aline Uaimé. Pardon. William, cette fois-ci, j'ai prononcé à moitié à la française, à moitié à la belge. Voilà, c'est très bien. Alors, on va passer à. C'est le moment où on vous déshabille un petit peu, puisqu'on va passer à l'entretien psy pour terminer notre émission.
Déshabillez-moi.
Justement, on n'a pas eu le temps de parler de la psychanalyse et de l'utilisation du théâtre dans la psychanalyse et dans la thérapie aussi, et puis de la manière dont finalement la psychanalyse s'est appropriée aussi le vocabulaire du théâtre. Donc on va plutôt nous faire votre psychanalyse à vous avec juste quelques petites questions. Alors d'abord, j'aimerais savoir quel a été pour vous votre premier choc esthétique au théâtre. Quelle est la pièce qui vous a marqué en premier?
Alors c'était... En tout cas, la première qui me vient en tête, c'était quand j'étais adolescente, une représentation de Diotime et les lions de Henri Beauchaud.
Et pourquoi alors cette pièce? Qu'est-ce qu'elle vous a donné à vous que vous n'aviez pas vu auparavant?
Alors déjà, le texte était d'Henri Beauchaud, ce qui est pas mal. Et la comédienne, donc, qui est Laurence Vielle, qui est une comédienne belge, qui a aussi beaucoup joué à Paris. Il y avait quelque chose de très vocal, en fait, alors que je ne suis pas quelqu'un... Je suis plutôt sensible aux idées aux mélodies des voix, on va dire. Mais il y avait un travail sur la voix qui était absolument... qui m'a saisie. Qui est restée comme une espèce d'image de théâtre.
D'accord. Quelle spectatrice êtes-vous? Est-ce que justement vous êtes du genre à passer 1h30 très mal assise et justement pour sentir votre corps en train de regarder une pièce, ou au contraire est-ce que vous pouvez vous ennuyer très facilement? Est-ce que comment voilà, quelle spectatrice êtes-vous? Comment êtes-vous quand vous êtes au théâtre?
Alors, je suis devenue, il faut dire que comme j'ai travaillé dessus pendant des années, j'ai été beaucoup au théâtre en tant qu'étudiante et puis en écrivant ma thèse. Et donc, je suis devenue une spectatrice assez irritable qui se dit que là, si c'est abusé, on va peut-être partir quand même, oui.
Vous pouvez partir ?
Je suis une spectatrice qui peut partir.
D'accord. Oui. Pas tout le monde n'ose partir. C'est vrai que le cinéma est beaucoup plus facile pour partir.
C'est vrai. Hein,
façon de moins blessé, moins vexé. Donc, ça vous arrivait de sortir de salle ?
J'essaye
de
d'éviter parce que oui, c'est assez horrible. Surtout qu'effectivement, les comédiens sont là sur scène. Mais oui, ça m'est arrivé.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez chercher au théâtre, quand vous allez au théâtre ?
Ah, c'est une question difficile. Alors, évidemment, par ma formation, mon travail, je vais y chercher des idées que je ne trouverai pas forcément dans des livres de philosophie. Et à un niveau plus personnel, je crois que je parlais tout à l'heure d'une image de théâtre avec la voix de Laurence Vielle. Je me suis trompée, c'était pas dans Diotime et les lions, c'était dans l'adaptation d'Antigone, tout simplement. Mais je vais chercher ça aussi, tout à coup, ça, on peut aller chercher dans tous les arts, mais tout à coup, une image qui... Enfin, pas forcément au sens visuel, mais quelque chose qui va rester imprimé comme ça et qui va nous poursuivre. Donc oui, je vais chercher ça aussi.
Et qu'est-ce que vous cherchez dans la philosophie ?
C'est peut-être mon côté deleuzienne pour le coup, mais j'aurais tendance à dire des forces de vie finalement. Enfin, comme toute personne qui a commencé des études en philosophie, ça fait longtemps que je cherche plus des réponses à mes questions en philosophie. Mais en tout cas, oui, des ouvertures de possibles, effectivement. Ah tiens, ça je l'aurais jamais vu comme ça, et ça nous ouvre toute une série de possibles, de manières de voir, de manières de penser, c'est ça que je cherche.
Très bien. Et dernière petite question, après on vous libère. Qui serez-vous demain, Aline Viam ?
Mais je ne sais pas, mais c'est peut-être ça qui est intéressant.
Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu des questions un peu compliquées de la fin. C'est toujours les questions les plus délicates.
J'ai des réponses plus courtes, vous noterez.
C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Aline William. Je vous rappelle, donc, on peut vous lire aux presses du réel. Votre ouvrage s'appelle « Scène de la défiguration, quatre propositions entre théâtre et philosophie ». C'est sorti cette année.
Oui.
Et c'était donc le résultat de votre thèse. Voilà, très bien, bravo en tout
mais
cas.
Mais réécrit pour que ce soit lisible.
C'est toujours mieux une réécriture. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Déshabillez-moi.
Mais merci pour votre invitation.
Et puis nous, on vous retrouve dans un mois. Je remercie Christophe à la réalisation de cette émission. Et puis je ne sais pas très bien de quoi on va parler dans un mois, mais on sera là dimanche soir à 18h sur Radio Campus Paris. Et la soirée continue sur Radio Campus Paris. Passez une bonne soirée à tous.